Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ECHO, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. À l'occasion des vacances scolaires, le CESM vous propose de prendre un peu de hauteur pour s'intéresser au traitement médiatique du fait militaire. Aujourd'hui, on vous parle du collimateur. Lancé le 17 janvier 2019 par Alexandre Jublin, ce podcast analyse la guerre et ses stratégies pour mieux comprendre les enjeux internationaux. Au programme, des interviews longues et des contenus qui ne cessent de s'étoffer, notamment depuis juillet 2023. D'ailleurs, cette stratégie paye. 5 ans plus tard, le succès est au rendez-vous. 6 millions d'écoutes et un podcast qui est connu de toutes les personnes passionnées de défense et de géopolitique. Mais au-delà du podcast, c'est toute la question de la médiatisation des questions de défense qui se joue. Alors comment expliquer ce succès? Quels sont les atouts du podcast? Pour en parler, le CESM a une nouvelle fois le plaisir de recevoir le créateur du collimateur, Alexandre Jublin. Bonjour et bienvenue dans l'Écho.
Bonjour.
Alors pour commencer et avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, j'aimerais quand même qu'on parle un peu de votre parcours. Vous êtes agrégé d'histoire et docteur en histoire moderne de l'université Paris-Sorbonne. Est-ce que vous pouvez détailler un peu comment est-ce que vous en êtes arrivé à être agrégé d'histoire, tout simplement?
En passant le concours, comme beaucoup de gens. Non, j'ai fait un parcours universitaire assez classique. Voilà, je fais des prépas, ensuite j'ai fait l'école normale supérieure de Lyon, et puis ensuite l'agrégation d'histoire s'est un peu imposée, et puis le doctorat, et je travaillais. C'est un peu lointain maintenant, parce que je suis un peu occupé à côté, mais sur l'histoire navale du début de l'époque moderne. Donc, c'est pour ça que le lien avec le CESM est un peu naturel, c'est la guerre sur mer qui m'intéresse.
Oui, vous avez fait votre thèse de doctorat sur le sujet, vous avez même sorti un livre en octobre 2022.
Tout à fait, il s'appelle « Par le fer et par le feu » sur l'abordage et le combat rapproché au début de l'époque moderne, sur ce que l'apparition de l'artillerie change à la guerre sur mer.
D'ailleurs, vous travaillez sur un autre article actuellement, en lien avec le combat naval, par exemple?
Non, c'est toujours un problème intéressant de qu'est-ce qu'on fait. Donc on a fait une thèse, la thèse ça s'exploite ensuite par plein d'articles, on en fait un bouquin, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Surtout quand on n'a pas de poste à l'université, ce qui est mon cas. Moi, j'ai plusieurs autres occupations à plein temps. Mais du coup, c'est un peu écartelé entre des questions stratégiques plus intemporelles, plus transpériodes et plus contemporaines, et le fait que l'histoire navale du début de l'époque moderne, ça m'intéresse toujours. Et par ailleurs, il n'y a pas grand monde qui travaille dessus, notamment en France. Et donc il y a toujours ce truc un peu écartelé entre le désir de continuer la recherche et en même temps la nécessité de trouver les moyens pour le faire, ce qui n'est pas évident.
Et puis avoir aussi peut-être une vie de famille potentiellement à côté. Je crois que vous en parlez un peu dans votre...
Alors c'est vrai que c'est important d'avoir une... Non mais c'est gentil de le préciser. C'est vrai que j'ai eu un enfant il y a peu de temps. Donc oui, j'aimerais si possible le connaître un peu plutôt que passer mon temps dans des archives.
Oui. Donc c'est facilement compréhensible.
Mais c'est pour ça que... Enfin, c'est un truc intéressant avec la recherche. C'est que c'est une passion et en même temps, si je suis parfaitement honnête, l'université et la recherche française se nourrit beaucoup de travail gratuit de la part de gens qui travaillent ailleurs, de gens qui, par exemple, ont un métier à plein temps comme enseignant dans le secondaire, comme c'était mon cas encore jusqu'à récemment, etc., et qui continuent à produire des articles pour lesquels ils ne sont pas payés, qui continuent à participer à des colloques, etc. C'est ce qui est totalement du travail gratuit. Alors, c'est de la passion, c'est l'amour de la science, et c'est très bien. Il se trouve qu'il y a un peu des limites à ça, et qu'effectivement, quand on veut essayer d'avoir un peu une vie équilibrée à côté, à un moment, il y a des limites, quoi.
Il faut se montrer des fois pragmatique sur la réalité.
Oui, tout à fait. Et puis, il faut aussi être un peu modeste, quoi. Il n'y a pas besoin de moi. Il y a d'autres gens qui pourraient faire de l'histoire navale du début de l'époque moderne, mais ils se confronteraient probablement au même problème, qui est le manque de postes et...
Le manque de financement potentiellement aussi.
Exactement.
Alors Alexandre Jublin, actuellement donc, vous gérez deux podcasts, le collimateur et le fil de l'épée. Comment est-ce que vous en êtes arrivé tout simplement à faire du podcast? Qu'est-ce qui a été peut-être le déclic? Est-ce qu'il y a eu un déclic?
J'ai passé du temps à France Culture quand j'étais plus jeune, quand je faisais ma thèse d'ailleurs. Je travaillais un peu là-bas. Et donc j'aimais bien la radio, j'aimais bien la matière que c'est, travailler du son, y penser. Et puis aussi s'affranchir de l'image. J'aurais pas fait de la télé parce que c'est beaucoup de boulot et beaucoup de contraintes autour qu'il n'y a pas vraiment avec le son, je trouve. J'aime beaucoup cette relation-là. Tout ça pour dire que donc, France Culture, au bout d'un moment, c'était plus possible pour diverses raisons. Et c'était réel, cette idée était un peu restée, il fallait que je finisse ma thèse, il fallait que je fasse d'autres choses. Mais, donc je vous l'avais dit, j'ai lancé en 2019, c'était dans les tuyaux depuis quelques mois déjà à ce moment-là. Et à cette époque-là, en 2019, ben, personne ne savait ce qu'était un podcast. Non, j'exagère, il y a des gens qui savaient, mais j'ai quand même passé les 2-3 premières années du podcast.
À vulgariser déjà ce qu'est un podcast.
Ouais, juste à expliquer ce que c'est. Les gens disent, ah mais c'est comme France Culture, ben non, c'est pas exactement ça. C'est sur quelle fréquence ? Ben non, c'est pas exactement une fréquence. Mais bon, c'est très bien, quoi. Mais en fait, l'idée était que... Le constat de base sur le collimateur était que les questions militaires sont importantes et qu'il y avait extrêmement peu de médias qui en traitaient. France Culture, c'était un cauchemar de faire accepter des sujets militaires-défense. D'une manière plus large, il y a des médias spécialisés. Il y a DSI qui existe depuis des décennies, qui est un magazine excellent, mais qui est très enclavé, quoi, qui est pas un magazine pour les gens qui s'intéressent vraiment à ça. Et en gros, l'idée, c'était qu'il y avait moyen, besoin, intérêt à parler des questions de défense de manière un peu libre, un peu détendue aussi, et que ça pouvait intéresser plein de gens.
Il y avait intérêt, c'est-à-dire ?
Qu'il y avait intérêt parce que je trouvais que ça ferait du bien qu'il y ait cette espèce de ressource qui soit pas marquée, y compris politiquement. Ça, c'est un gros problème, je trouve, c'est que, enfin, en tout cas pendant longtemps, les questions de défense étaient très marquées à droite. Il y avait un soupçon, enfin, ouais, c'était très identifié à ça. Et c'est vrai aussi, moi, c'est un truc que j'ai constaté en faisant ma thèse. C'est un truc de, ah, mais si tu travailles sur la guerre, c'est que t'aimes ça, c'est que t'aimes l'armée, c'est que t'aimes les flingues, probablement, enfin, de ce genre de choses. Moi, j'ai toujours dit, mais je travaille sur l'histoire navale du 16e siècle. Enfin, on peut toujours tirer des parallèles. Mais c'est pas, je joue pas aux soldats de plomb dans ma chambre, quoi. J'ai pas ce genre de passion militaire là. Et c'est un truc que les historiens militaires connaissent bien. Quand on travaille sur l'histoire militaire, il faut commencer par s'en justifier. Toujours. Il y a un historien italien qui s'appelle Franco Cardini qui disait que quand on travaille sur la guerre, il faut commencer par tracer le cercle rituel autour de soi pour bien marquer que la guerre, c'est mal. Et ensuite, on peut en parler. Et voilà, moi, j'ai toujours trouvé ça assez juste. J'ai trouvé ça assez anormal parce que la guerre, c'est quand même pas exactement une activité émergente et ni trivial, enfin, je veux dire, c'est important et ça existe depuis longtemps, donc autant en parler, d'autant que la validation de ça absolue, ça a été l'Ukraine évidemment, mais il y a eu d'autres exemples avant. C'est quand la guerre arrive, ou quand elle se rapproche, il n'y a plus que ça qui intéresse les gens. C'est logique, parce que c'est existentiel la guerre.
C'est ça, ça devient un sujet vraiment d'intérêt, et autant fournir les clés de compréhension de la guerre, tout simplement.
Ouais, et puis surtout autant le faire sur le temps long, pour que ça se fasse de manière un peu moins frénétique, sur le temps court, quand ça sera... Enfin, je veux dire, autour, depuis 18 mois, alors maintenant, ça va un peu mieux, mais il y avait des moments où l'inquiétude était telle que les gens se passionnaient pour des trucs, pour les canons César, comment fonctionne un automoteur, nos obus bonus, etc., qui sont des choses bien, mais enfin, il n'y a pas de fatalité à ce que le grand public sache comment fonctionne un canon César. Enfin, on peut juste avoir des idées, des ordres de grandeur. Je veux dire, il y a un niveau de vulgarisation et de compréhension des choses militaires, on peut trouver un moyen terme entre les trucs hyper spécialisés du, ce qu'on appelle parfois du war porn, quoi, des trucs de on veut absolument tout connaître sur les armes, etc., et de à l'autre extrémité du spectre, la guerre c'est mal, donc autant pas en parler, parce que... Et ça, je crois que c'est le truc de fond, c'est l'idée que la guerre serait quelque chose d'un peu incantatoire, que si on parle de la guerre, au fond, on aurait tendance à la faire se rapprocher, que le mieux c'est de la refouler, le mieux c'est de pas en parler, le mieux c'est
de la cacher.
Ouais, le mieux c'est... Il y a un vrai, je crois, effort de refoulement de et donc, la possibilité de la guerre.
À ce moment-là, on est en 2019, peut-être 2018, le temps que tout ça prenne le temps de germer. Qu'est-ce qui fait que vous êtes rapproché de l'IRSEM pour... Peut-être que vous y travailliez déjà à l'époque ?
Pas du tout. Je connaissais le directeur et le directeur scientifique parce que j'avais publié une grande enquête dans la revue du CRUA à peu près sur ces questions-là, sur les war studies en France et sur le fait qu'il y avait une sorte de malaise entre l'université française et les questions liées à la défense. Et toujours est-il que pour cette enquête, j'avais interrogé notamment Jean-Jean Villemaire, mais aussi Jean-Vincent Olindre, qui était donc directeur et directeur scientifique, parce qu'ils avaient fondé l'AEGES, qui est l'Association pour les études sur la guerre et les études stratégiques. Mais du coup, qu'il y avait une idée là-dessus, sur le fait qu'il fallait redynamiser tout ça. Toujours est-il que j'avais bien apprécié le contact avec Jean-Jean Villemaire. C'est quelqu'un de dynamique, qui enthousiaste, à qui on peut monter des projets, qui donne de l'énergie et de l'intérêt à ces choses-là. Et donc voilà, je m'étais dit que ce qui était intéressant, c'était de travailler avec quelqu'un comme ça, et puis... Voilà, travailler avec une institution, parce que l'enjeu à ce moment-là, c'est bien de faire un podcast, c'est mieux si les gens l'écoutent, c'est encore mieux si éventuellement on peut être plus ou moins payé pour
Ce qui était un peu le cas aussi, j'imagine, il y avait peut-être l'idée...
En fait, par ordre de priorité, ce dont j'avais besoin, ce que je voulais, c'était un premier canal de diffusion. Je me suis dit, si je lance un podcast et que j'en parle à ma famille et mes amis en espérant que ça se propage par le bouche à oreille, ça risque de prendre un moment. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un ancrage avec des comptes Facebook, Twitter, etc., qui avaient un certain nombre d'abonnés. Donc déjà, qu'il y ait une sorte de premier...
C'est ça, qu'il y ait déjà une communauté établie, ouais, qui soit potentiellement réceptive au podcast.
Après, dire que c'était déjà une communauté, c'est peut-être beaucoup dire. C'est-à-dire, communauté, ça implique qu'il y ait un engagement. Mais en tout cas, qu'il y ait un moyen de toucher un certain nombre de gens qui... Voilà. Et par ailleurs, j'en avais pas conscience à l'époque, mais l'idée de l'IRSEM était très compatible, même très superposable avec ce que je voulais faire avec le podcast. Voilà, l'IRSEM, c'est un institut où il y a des chercheurs, des militaires qui se rencontrent, qui parlent, insérés dans l'école militaire, mais en même temps avec une ouverture plus loin. C'était vraiment cette idée qu'il est possible d'avoir un pied dehors, un pied dans l'institution, tout en gardant une liberté d'esprit et un ton potentiellement un peu critique. Enfin bon, ça, je trouvais ça très bien, très sain. Je trouve qu'il y en avait besoin, il y en a toujours besoin. Et donc, ça m'intéressait beaucoup. Et voilà, donc l'un dans l'autre, mais j'aurais pu aller voir d'autres gens, mais en tout cas, l'un dans l'autre, ce portage-là, c'était plutôt le bon fond baptismal, disons, sur lequel portait le podcast.
Et donc à ce moment-là, vous lancez le podcast, 17 janvier 2019, comme on l'a dit. Vous êtes dès le début à un épisode par semaine, ou est-ce que ça prend le temps de se structurer progressivement? Est-ce que vous êtes dit dès le début, la régularité, c'est bien, c'est un facteur clé?
Ouais, je me suis dit qu'il fallait être régulier. Je sais pas si on était déjà un épisode par semaine au début, faudrait regarder, les dates sont facilement disponibles, mais je pense, ça me paraît probable. Après, je pense que au début, il n'y avait aucune pression pour le faire.
La pression est venue au fur et à mesure?
Et ça va faire une sorte de psychanalyse, mais moi je me la mets tout seul, la pression, parce que j'ai une tendance un peu obsessionnelle sur ces trucs là donc si je fais pas d'épisode, je m'ennuie, et c'est ce que j'aime bien faire. J'aime bien réfléchir à quelles émissions on pourrait faire après, etc., avec qui on pourrait les faire, discuter avec les gens, j'aime bien ça. Donc je pense pas que, en tout cas au début, je sais qu'on m'a pas mis la pression pour le faire, ça c'est sûr, mais ensuite, est-ce que tout de suite j'ai dit que je le ferais une fois par semaine ou pas, je sais pas. En tout cas, ce qui est ça certain, c'est que je voulais de la régularité et je voulais un truc prévisible. Et ça, je pense, en tout cas c'est ma vision du podcast et de la radio d'une manière générale, c'est que c'est important que ce soit un rendez-vous. Je dis ça, c'est ma manière, parce qu'il y a aussi plein de podcasts qui le font par série, qui lâchent 5-10 épisodes et qui ensuite s'arrêtent pour une saison. Enfin bon.
Il y a une espèce de vision de l'objet podcast, c'est-à-dire qu'on fait un contenu tellement qualitatif qui demande beaucoup de temps et ensuite on prend le temps de produire une autre collection.
Vous voulez dire que du coup, en le faisant régulièrement, c'est pas qualitatif?
Je ne me permettrai jamais de critiquer Collimateur. Je plaisante.
Non, c'est oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je pensais que l'intérêt, ce qui m'intéressait, c'était de faire un truc sur la durée. J'avais pas de désir.
Temps long.
Oui, temps long. Mais en même temps, on peut mettre énormément de temps pour sortir 5 épisodes aussi. Mais ce qui m'intéressait, c'était de... Je veux dire, j'avais tellement d'idées d'émissions, et j'en ai d'ailleurs toujours tellement. Enfin, c'est que je voyais pas même l'intérêt de me limiter à une série d'épisodes. L'idée, c'était de créer un espace. Créer un espace où on parle de ces questions de défense, on en parle de manière détendue, de manière pas marquée si possible, et où les gens peuvent venir, où les universitaires viennent, où les militaires viennent, où les chercheurs, les think tankers viennent, où les responsables civils viennent, etc. Et l'idée, c'était d'installer cet espace que toutes ces communautés qui, pour des raisons bonnes et mauvaises, ne se parlent pas, ont du mal à se croiser, en tout cas avaient du mal à se croiser historiquement. Il y a plein de préjugés, il y a plein de problèmes dans ces relations-là. Mais en tout cas, que les gens se sentent accueillis et bienvenus pour parler de questions de défense depuis là où ils viennent.
5 ans plus tard, est-ce que l'objectif est accompli?
Oui, l'objectif est accompli depuis longtemps. Enfin, en termes de produits, enfin, en termes de contenu des émissions. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver que c'est nul, mais moi, en tout cas, je produis les émissions qui m'intéressent et je trouve qu'on est à un bon niveau de contenu. Et qu'on est stable à ce niveau, et qu'on a aussi de la diversité, c'est-à-dire il y a les émissions d'analyse, et puis il y a à côté des émissions de récits d'opérations par des militaires, il y a à côté des émissions maintenant d'histoire militaire, on a des analyses de films ou de séries, on a des trucs d'articles, enfin bon, on a plein de choses, donc il y a de la diversité, et ça c'est intéressant.
C'est ça, vous avez diversifié progressivement le catalogue des contenus.
J'ai créé des formats, quoi.
Oui, c'est ça.
Et puis ensuite, en termes d'audience, mais oui, bien sûr, on n'avait aucune idée que ça atteindrait ce niveau d'audience-là, mais en même temps, on n'avait aucune idée quand on l'avait lancé.
6 millions d'écoutes, je le rappelle, c'est pas anodin, c'est quand même un franc succès. Vous êtes souvent qualifié d'ailleurs comme le podcast de la défense et des sujets militaires, c'est pas rien. Enfin, on imagine que ça puisse mettre un peu de pression aussi sur les épaules.
Non, ça, non, parce que le succès, il est venu comme ça, mais c'est intéressant parce que, bon, je ne sais pas si vous voulez en parler ou pas, mais le modèle économique a changé.
On
peut en parler, mais donc le collimateur est parti de l'IRSEM, est toujours fait avec le soutien du ministère des Armées. Mais, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais j'ai eu un enfant, donc il a fallu que je me trouve un moyen pour être à plein temps sur ce podcast. Et du coup, maintenant, il y a un peu de pub. Et ce qui est intéressant avec la pub, c'est que du coup, c'est dépendant de l'audience. Et ça, c'est un grand enjeu, c'est de ne pas essayer de suivre l'audience, de ne pas essayer de faire de l'audience. C'est un truc d'autodiscipline, mais l'idée, c'est qu'il faut que je réussisse à continuer à faire les émissions qui me plaisent parce qu'elles me plaisent, et pas avoir l'œil fixé sur le compteur pour savoir si ça ramène plus ou moins d'argent. Et ça, je peux le faire grâce aux partenaires qui assurent une sorte de base financière au podcast.
C'est ça, le Rubicon, le Centre des études de sécurité de l'IFRI. Il y a aussi Binge Audio.
Alors Binge Audio, c'est autre chose, c'est eux, ils distribuent, mais oui. C'est la DGAIA du ministère des Armées qui participe aussi. Et ça, c'est très important parce que c'est ces partenaires-là qui me permettent de ne pas me focaliser sur l'audience, qui me permettent de faire le contenu que parce que c'est des partenaires, donc on en parle avec eux, pensent de qualité sans être focalisé sur il faut absolument avoir des écoutes pour gagner suffisamment d'argent pour que le podcast soit stable. Là, on peut faire autre chose, quoi. J'ai un peu perdu de vue la question originale.
Parce que je voulais aborder notamment à l'issue, donc juillet 2023, il y a... vous prenez votre indépendance, entre guillemets, enfin, vous trouvez de nouveaux partenaires. J'aimerais qu'on parle un peu de l'IRSEM, de, à votre avis, qu'est-ce que ça leur a apporté à l'issue des 4 ans.
Au final,
après 4 ans, peut-être plus de visibilité, peut-être plus de visibilité pour leurs chercheurs, etc., etc.
C'est sûr, plus de visibilité et plus de visibilité pour leurs chercheurs, mais la question, c'est aussi qu'est-ce qu'ils ont perdu avec le départ, et ça, c'est à eux, enfin, c'est aux gens qui sont à la tête de l'IRSEM maintenant qu'il faudrait poser la question. En tout cas, je pense que tant que ça marchait à l'intérieur de l'IRSEM, c'était super pour eux. C'était super pour moi aussi, évidemment. Hein. C'est pour ça que je restais. Mais parce que c'était quelque chose qui, pour être assez clair, leur coûtait pas grand-chose, parce que j'ai toujours été extérieur, j'ai jamais été dans l'IRSEM. Ils avaient pas beaucoup de contraintes par rapport à ça. Et ça leur donnait de la visibilité aussi. Ça permettait de nouer des relations. Enfin bon, c'était intéressant pour eux. Après, j'en sais rien. En tout cas, je trouve qu'il y a un truc intéressant là-dedans, qui est le fait que c'est pas eux qui ont créé le podcast. C'est moi.
Donc c'est centré autour d'une personne.
Oui, mais même, surtout, je veux pas dire ça, je veux dire que le projet vient de l'extérieur. C'est-à-dire, eux l'ont repris au bon, l'ont accueilli, l'ont hébergé, l'ont nourri, et ça n'aurait jamais été possible de faire ça de cette manière-là sans eux. Mais ça pose des questions qui sont intéressantes sur comment est-ce qu'on porte un projet dans l'administration, comment est-ce qu'on crée des choses, y compris avec des nouvelles technologies, y compris avec des nouveaux médias, etc. Comment est-ce qu'on s'en approprie et dans quelle mesure. Mais bon, je suis désolé, là j'ai l'impression on pourrait renverser l'interview et je pourrais vous demander de parler des podcasts du CESM, parce que les podcasts du CESM sont intéressants parce que c'est un modèle différent et je les ai vus.
C'est ça.
Je les ai vus naître à quelques mètres de l'IRSEM à l'époque.
Vous étiez présent dès l'épisode 4. Ouais. On a fait une interview avec vous à l'époque pour parler de votre thèse justement et de votre livre aussi
qui arrivait à l'époque.
Qui arrivait.
Mais les podcasts du CESM sont créés par l'institution. C'est une volonté de l'institution et du coup ça a aussi mis plus de temps à se mettre en place, il faut structurer, alors que moi je suis arrivé avec un truc un peu clé en main.
Alors justement ça permet aussi peut-être d'aborder les avantages du podcast, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de vidéo, c'est plus facilement réalisable, il y a de l'idée de... C'est facile à produire, peut-être.
Ouais, enfin, c'est sûr. Bah, je pourrais pas faire de la vidéo. Enfin, je sais pas faire, quoi. Et je sais pas faire, ça m'intéresse pas particulièrement d'apprendre.
D'accord. C'est une question que j'allais vous poser, justement, sur potentiellement les évolutions du collimateur. Est-ce qu'il y aurait pas possibilité de créer une vidéo? Enfin, de faire davantage de la vidéo? Peut-être avoir un studio où, pour peut-être les grosses interviews, vous faites appel au studio, puis vous enregistrez ça. Puis un peu, il y a un podcast qui s'appelle Thinkerview notamment, qui existe depuis 2014. Voilà, faire des interviews vidéo que vous la logique serait différente.
Oui, mais Thinkerview, c'est intéressant, on peut en parler. Vous voyez, alors j'ai plein d'autres problèmes avec Thinkerview, mais juste si on reste sur la forme, j'ai jamais compris pourquoi c'était des vidéos. Alors, si ce n'est que, du coup, c'est sur YouTube et ils gagnent l'argent de YouTube et les vues de YouTube, et etc. Mais à part ça, il y a aucun truc de forme intéressant. C'est juste des gens sur fond noir filmés dans un fauteuil noir, quoi. Avec...
C'est ce qu'il y a de plus classique, entre guillemets.
Bien sûr, mais du coup, je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire, pour moi, l'intérêt aussi de l'audio, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas exclusif. C'est-à-dire, on peut faire un podcast en faisant d'autres choses. Enfin, on peut écouter un podcast en faisant d'autres choses. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, je sais pas, moi, les gens qui me parlent de tout ça, c'est des gens qui... les gens me parlent de leur quotidien, quoi. Ils écoutent le collimateur, soit parce qu'ils ont des trajets de bagnole, soit parce que... ils font du sport. Moi, c'est mon cas. J'écoute beaucoup de podcasts parce que je fais du sport, je vais courir. Et voilà, c'est des pratiques qui sont comme ça. Mais après, c'est parce que moi, c'est pas ma pratique. Ça m'arrive jamais de rester calé 1h45 devant une vidéo YouTube.
Peut-être que si vous passiez à la vidéo, les gens mettraient la vidéo en fond et puis ils feraient quelque chose à côté. Peut-être que les habitudes de consommation des vidéos ont aussi changé par rapport à ça.
C'est-à-dire mais j'ai la faiblesse de croire que ces gens-là, ils sont capables de télécharger un podcast aussi. C'est pas... Et puis, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas intéressant, etc. C'est que le ratio temps travail supplémentaire, parce que faire un montage vidéo, c'est plus compliqué, enfin, c'est plus long que faire du montage audio.
Vous pensez à déléguer des fois ou pas?
J'y pense, mais j'aime pas donner des ordres.
Donc avoir un employé ou potentiellement un prestataire externe.
Ouais, mais je suis pas à l'aise avec ça. Mais aussi parce que j'ai l'habitude de tout faire tout seul et que je tiens à ce travail. C'est-à-dire, vous voyez, je vais pas vous l'apprendre, mais on fait l'interview, c'est bien. Ensuite, on fait le montage. Et le montage, on réécoute, on réfléchit à ce qu'on a dit, on réfléchit à ce qu'a dit l'invité. J'apprends plein de trucs. Et donc, on apprend, quand on écoute deux fois un truc, on apprend encore
plus. C'est ça. Il y a des choses qu'on réalise au montage et qu'on a moins réalisées lors de l'interview, parce que c'est un exercice différent aussi.
Ouais, et moi, par ailleurs, je trouve que je fais un meilleur boulot comme ça que ce que je ferais... À l'époque de France Culture, moi le travail était très... C'était des grosses équipes, parce qu'il y avait des gros rythmes. Mais du coup, le travail était très segmenté. Et moi, je me suis juré de jamais être ces présentateurs qui entrent en studio, qui n'ont pas lu les livres, qui ont juste une fiche devant eux, qui font un truc vague, et qui ensuite partent et vont faire autre chose, et c'est fini pour eux, quoi. Si je fais ces émissions-là, c'est parce que ça m'intéresse. Oui, je pourrais aussi avoir quelqu'un qui m'aide à booker des invités, mais en fait, je suis content
de le faire aussi.
Prendre contact, de parler avec les gens, de parler des émissions, ensuite de lire les livres, de faire les choses, de penser à des questions. Puis ensuite, je suis content de parler avec les gens, et puis ensuite, je suis content de réécouter et de monter, parce qu'il y a aussi un travail technique qui me plaît là-dedans. Donc oui, je sais bien que ce serait rationnel de déléguer tout ça, mais en même temps, un peu tout me plaît là-dedans, et j'ai pas envie d'avoir... C'est terrible de dire ça, parce qu'en plus, dans un contexte militaire, je vois souvent des militaires, c'est la totalité du boulot des militaires de savoir faire ça, mais je ne suis pas militaire, j'ai pas vocation à l'être, et du coup, voilà, je fais pour l'instant, en tout cas, ce qui m'est naturel et ce qui m'est encore possible de faire. Donc.
Justement, en parlant de militaire, ça permet de s'intéresser un peu aux différents intervenants que vous avez eus. Vous avez notamment interrogé l'amiral Pierre Vandier, ancien chef d'état-major de la marine. Est-ce que, selon vous, les acteurs de la défense et du monde militaire sont restés peut-être trop longtemps à l'écart du grand public?
Ouais, je pense qu'il y a une difficulté à voir les choses, une difficulté à se lâcher sur le message, c'est-à-dire à avoir un message qui ne soit pas totalement de la com. Moi, c'est un truc que je dis souvent aux invités, c'est que je ne fais pas de la com et je ne suis pas journaliste. C'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire je ne fais pas de la com au sens où je n'ai pas l'intention de donner une image particulière des armées, ou en tout cas de la personne qui vient me voir. Et je suis pas journaliste au sens où je suis pas dans une démarche... tous les journalistes ne sont pas, enfin c'est quand même un peu l'idée de confrontationnelle, où on veut faire dire des choses aux gens, on veut faire émerger... J'en ai pas un très bon souvenir à France Culture, quand on recevait des personnages politiques, c'était une sorte de jeu à somme nulle. C'était soit l'invité gagne, soit le journaliste gagne, c'est-à-dire si l'invité dit des choses, dit trop de choses... C'est le journaliste qui a gagné, et puis s'il reste complètement sur son message un peu corseté, c'est notamment le politique qui a gagné. Et moi, je me suis toujours dit qu'en fait, il fallait sortir de cette chose-là, l'essentiel...
Ça n'empêche pas d'avoir une discussion.
Oui, ça n'empêche pas d'avoir... ce que je veux dire, c'est que c'est absolument indispensable qu'il y ait des journalistes à côté pour faire ce travail-là, mais ça existe déjà et c'est pas mon métier à moi. Le truc, c'est d'avoir une conversation intéressante avec quelqu'un d'intéressant.
Sur des sujets de défense.
Sur des sujets de défense, avec du contenu, etc. Mais c'est pas... Pour revenir à votre question, c'est que je pense que la communication des armées et des responsables militaires en particulier, c'est souvent calé, enfin la géométrie s'est installée par rapport à ça, par rapport aux journalistes. Comment est-ce qu'on traite les journalistes, comment est-ce qu'on parle avec les journalistes, comment est-ce qu'on mitige en quelque sorte les risques qui sont associés avec le fait de parler avec des journalistes. Mais ça va avec le fait que ces nouveaux espaces apparaissent, et ben du coup il faut qu'ils apprennent à s'en saisir, mais ils sont...
Est-ce que vous pensez que ça fait aussi partie des avantages du podcast, hein, notamment ? C'est-à-dire que la position du podcasteur, par exemple, est une position un peu alternative entre le grand public et le journaliste ?
Ouais, sans doute. Mais du podcasteur ou du vidéaste, si c'est ça.
Enfin, ou de l'influenceur, ou du créateur de contenu, en tout cas.
Ouais, bah, ouais, créateur de contenu, c'est un peu moche quand on le lit comme ça, mais c'est un peu c'est de ça qu'il est question. Ouais, ouais, tout à fait. Mais ils se sentir pas trop mal. Enfin, je veux dire, ça a pris un peu de temps et il a fallu leur expliquer. Mais, enfin, je veux dire, Pierre Vendier est venu, mais avant, j'avais eu l'amiral Prazuc, un ancien chef d'état-major de la marine. J'ai eu le général Burkhardt. Enfin, j'ai eu plein d'anciens chefs d'état-major, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on leur explique, qu'ils comprennent. Il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il y a un temps de latence et il faut le temps que tout ça entre dans les mentalités et que les gens apprennent à s'en saisir. Et c'est très inégal. Et je pense que, in fine, tout le monde y gagne. C'est-à-dire d'avoir une sorte d'environnement médiatique, appelons ça comme ça, un peu plus détendu, le cas échéant, sur les questions de défense.
Et dernière question, j'aimerais qu'on parle, on l'a rapidement évoqué, mais c'est la question du marché des podcasts. Il y a eu en novembre 2023 et même en octobre et en septembre certains appels pour mieux structurer le marché du podcast parce que ce marché est relativement précaire. C'est ce qui vous a amené, vous, en juillet 2023, à prendre potentiellement votre indépendance. Alors je ne dis pas que c'est uniquement à cause de ça, mais je dis juste que ce n'est pas anodin à mes yeux que le créateur du Collimateur souhaite devenir indépendant financièrement, potentiellement. Donc la question, c'est en fait, selon vous, enfin, quelle est votre vision plutôt du marché du podcast à l'heure actuelle ? Est-ce que c'est en train de se structurer ? Est-ce qu'on va plutôt quand même vers moins de précarité ?
Je suis pas parti parce que je pensais gagner de l'argent avec
oui,
le podcast.
Oui, bien sûr.
Je suis parti malgré le fait qu'il y avait quand même de grandes chances que je ne gagne pas d'argent avec le podcast. Il se trouve que, grâce à l'ouverture d'esprit, au soutien de tous les partenaires, plus au sens large, et tous les partenaires qui arrivent, etc., a priori, ça va. Cela étant, c'était un gros risque personnel. Et si j'avais pu rester dans de bonnes conditions dans l'institution, je l'aurais fait. Vraiment. Parce que, par ailleurs, je suis fonctionnaire depuis que j'ai 19 ans. Donc c'était mon ADN. Ensuite, sur votre question, c'est une question intéressante. Ça pose la question de la pub. Enfin, ça pose la question de la monétisation et de comment on fait. Il y a toujours deux modèles. C'est soit on fait des choses payantes, soit on fait payante ou par soutien, souscription ou Tipeee, etc. Soit on met de la pub. Moi, j'ai fait le choix de mettre de la pub dans une certaine mesure. Enfin, ça va, c'est pas l'avant-journal de 20h non plus. Hein. Ça reste raisonnable. Mais parce que je veux que ce soit disponible au plus grand nombre possible. Et je veux que... Et puis la pub, on peut la skipper, hein, surtout sur un podcast. C'est pas la télé en continu ou c'est pas où on en est prisonnier. Donc là, la question, c'est est-ce que le marché de la pub du podcast est mature ? Absolument pas. Mais parce que le marché lui-même du podcast n'est pas mature. Je sais plus qui me donnait ces chiffres, mais en gros, il y a entre 30 et 40% des Français qui écoutent des podcasts. Aux États-Unis, c'est entre 80 et 90%.
Le double.
Ouais. Mais donc, on n'arrivera probablement pas à ces niveaux-là, notamment parce qu'il y a une radio de service public en France de très bonne qualité qui, je pense, a retardé l'éclosion du podcast, mais parce qu'ils sont très bons. Mais quand même, il est probable que ça augmente de plus en plus et que du coup, de plus en plus de gens, d'annonceurs se rendent compte qu'il y a un espace à mobiliser. Parce qu'en plus, les podcasts, ça dépend lesquels, mais je trouve que c'est des bons vecteurs de communication pour les gens qui veulent communiquer à l'intérieur. Donc oui, c'est un marché qui est encore très précaire. Je pense qu'il y a de bonnes raisons d'être optimiste. Sincèrement, je pense que les gens vont comprendre, aussi bien les Français vont écouter de plus en plus de podcasts parce que l'évolution technologique des smartphones fait que c'est naturel, quoi. Même les gens qui écoutent aujourd'hui la radio écoutent souvent sur leur smartphone. Donc en fait, quand il fallait changer d'objet, c'est-à-dire du transistor au téléphone ou à l'ordinateur, c'était un enjeu. Maintenant, ça passe déjà par le téléphone, donc je pense que la transition va se faire plus facilement, mais ça va prendre encore des années, et c'est pour ça, je suis pas du tout au fait de ces trucs-là. Alors même que je suis le distributeur, c'est Binge Audio, qui eux sont très au point là-dessus, mais effectivement, probablement que jusqu'à la maturité et à la santé financière, il y a une période, que je vais pas me hasarder à quantifier, où ça va rester relativement précaire et un peu touchy, et c'est à ça que servent, ou en tout cas que peuvent servir les pouvoirs publics, c'est-à-dire à faciliter cette transition et cette évolution qui est peut-être de toute façon le sens de l'histoire. Donc, enfin, un sens de l'histoire.
Ben, ce sera le mot de la fin, du coup. Merci Alexandre Jublin. Je rappelle que vous êtes le créateur du Collimateur et que vous êtes agrégé d'histoire et docteur en histoire moderne à l'université Paris-Sorbonne. Par ailleurs, donc, comme on l'a déjà évoqué un peu, le monde naval vous est familier. Vous avez publié une thèse et un livre qui s'appelle « Par le fer et par le feu, combattre dans l'Atlantique au XVIe et XVIIe siècle ». Ce livre a reçu notamment le prix amiral d'Aveluy en 2020 et c'est le prix de stratégie navale du chef d'état-major de la marine. Enfin, un petit mot pour nos auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast du Centre d'études stratégiques de la marine.